BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est quasiment midi pile sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité. Ce regain de tension sur les marchés face au blocage persistant du détroit d'Hormuz et la menace inflationniste de plus en plus forte. Les principales bourses mondiales sont dans le rouge, le CAC 40 sous les 8000 points. Côté pétrole, le baril de Brent n'est plus très loin des 110$, autour de 109$ ce midi. Mais c'est sur le marché obligataire que les tensions sont les plus fortes ces dernières heures. La dette de l'État français à 10 ans est repassée au-dessus des 3,8% et le 10 ans allemand au-dessus des 3,10. Déception donc des investisseurs après le sommet entre les présidents chinois et américains qui s'est conclu sans avancée diplomatique majeure. Au départ de Pékin, Donald Trump a d'ailleurs déclaré être en train de perdre patience à l'égard des Iraniens. Il a assuré que son homologue chinois partageait l'idée que l'Iran ne devait pas disposer de l'arme nucléaire et devait rouvrir le détroit d'Hormuz. Selon le président américain, les autorités chinoises lui auraient également promis de n'envoyer aucun équipement militaire à Téhéran. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Écoutez BFM Business dans les grandes villes de France. En live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com.
BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, pas comme tous les jours. Comme tous les vendredis, les meilleurs professionnels de ce secteur laissent leur place aux meilleurs journalistes. Et en l'occurrence, à mes côtés aujourd'hui, Pierre Chevillard et Catherine Boquet. Et au programme de notre vendredi IMO, experts de l'IMO, c'est le topoto de la semaine. Mais oui, ça monte petit à petit. Mais il y a encore des opportunités à saisir. C'est peut-être le moment d'acheter, on vous le dit tous les jours. Mais quand même là, vraiment, c'est peut-être maintenant parce qu'après, ça pourrait être trop tard. Également au programme, la difficile... Que dis-je ? L'impossible peut-être, convalescence du logement neuf, le marché locatif francilien qui reprend des couleurs, sauf à Paris. On en profitera d'ailleurs pour parler de logements étudiants dans notre région capitale qu'est l'Île-de-France. On parlera aussi de nos impôts, période de déclaration oblige. On fera un détour par l'Italie avec un coup d'œil sur le programme de nos voisins en matière de logement. Et puis si on a le temps, et j'espère qu'on l'aura, on fera le bilan de l'hiver dans nos stations de ski. Allez, on y va tout de suite.
Les experts de l'IMO, le débat.
De formidables, que dis-je, les meilleurs journalistes indépendants sur ce secteur de l'immobilier et du logement. Catherine Boquet, bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Chevillard, bonjour.
Bonjour Marie, bonjour Catherine.
Et évidemment, comme chaque vendredi, c'est l'heure du...
Topoto. Les experts de l'IMO, le topoto de la semaine.
J'adore ce jingle à chaque fois qu'il part. Et Dieu sait que ces dernières semaines, à chaque fois qu'il part, on est là en train de se retenir un peu notre souffle en disant « Bon, on en est où du côté des taux ?» On va pas se mentir. Ça monte, on est quoi ? Autour de 3,5% là sur 20 ans ?
Sur 20 ans, on est à peu près à 3,40, 3,50 à peu près. Ça monte un tout petit peu. En fait, c'est contrebalancé par le fameux printemps de l'immobilier et les banques qui cherchent des acquéreurs, des emprunteurs. Donc ça veut dire que si on présente un bon dossier, si on se prépare avant, si on met de l'apport, si on rapatrie de l'épargne chez le prêteur, on peut avoir des décotes. Le courtier Préto disait par exemple qu'un couple parisien qui devait emprunter dans les 300 000 euros a eu
un couple de Parisiens qui voulait emprunter que 300 000 euros, ça existe
encore. Et donc, je crois que ce sont des Parisiens.
Oui, déjà, un couple, est-ce que c'est...
Sur les trois offres que le courtier a sélectionnées, on était à 3,60, 3,40 et même 3,20.
Ah oui, donc il y a quand même...
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se montrer très séduisant vis-à-vis de la banque, il faut l'intéresser par une possibilité... Comment il dit ça ? Il faut bâtir une relation commerciale sur le long terme. On va prendre des assurances, on va prendre des livrets d'épargne, La banque fait un effort. Elle prête sans faire de marge, mais derrière, il faut être un
sans
petit peu...
Sans faire de marge,
non,
quand
non,
même,
non, non,
Pierre.
Non, non, c'est une tendance qui est établie depuis l'année dernière. Alors, ça date un petit peu. La CPR, qui est le gendarme du crédit, avait fait une étude qui montrait que les banques, au premier semestre 2025, prêtaient à perte. Pas beaucoup, mais à perte.
Quand bien même je prends en compte l'assurance de prêt qu'elles me vendent au moment
ça,
du crédit.
On est en taux brut. C'est-à-dire que si vous êtes en taux net et si vous prenez le contrat groupe de la banque, vous serez à 0,25 ou 0,30 du capital emprunté et que sur l'assurance emprunteur, la banque, elle va faire une marge de 60 à 80%.
C'est pas mal comme.
Oui, mais vous prenez le crédit, ça passe, et après vous faites jouer la loi Lehman, vous faites une résiliation, vous faites une délégation d'assurance, la loi vous permet de le faire, et là votre assurance, vous allez diviser le coût par deux.
Oui, non, mais d'accord, ok, Pierre, on est d'accord, mais enfin la banque, elle reste quand même nettement majoritaire sur ce marché de l'assurance de prêt, même si on le répète à longueur de temps, changez votre assurance de prêt, mais enfin, la réalité.
Pour l'emprunteur, c'est d'avoir son crédit. Une fois qu'il a son crédit, il se dit ça passe. Économiser, me relancer dans des démarches, des choses comme ça. Et Sandrine Lannonnet de vos financiers qui disait, les acquéreurs, les emprunteurs français aiment pas négocier, aiment pas redemander des choses derrière, tout ça, donc pas. Mais si vous avez bâti votre projet immobilier avant la hausse, parce que avec, parlez, l'inflation, l'OAT, le maître étalon des taux immobiliers, quand les banques vont avoir atteint leurs objectifs commerciaux, ça va se jouer entre juin, juillet, août, et avec la BCE qui a de fortes chances, on entendait tout à l'heure sur votre antenne, de remonter ses taux, eh bien, il y a de fortes chances pour que le taux remonte. C'est l'Observatoire Crédit Logement qui disait qu'en 2027, on serait à 4% en toute durée confondue. Aujourd'hui, en avril, on était à 3,23 d'après cet organisme. Donc voilà, quoi. C'est quand vous dites que c'est le moment d'acheter, on ne va pas se précipiter parce que le crédit, c'est un outil au service du projet, mais clairement, l'argent d'aujourd'hui, il est moins cher que celui de demain.
Oui, oui, non, mais c'est ça le sujet. C'est en gros se dire effectivement, on a une légère hausse des taux, ça prend aller depuis 2-3 mois 0,05 ou 0,10, mais enfin quand même
ça reste bien,
ça reste ça accessible reste. Et puis on a tous ces petites lignes de prêts aidés qui se cumulent avec ce taux de marché. N'oubliez pas, à chaque fois je le répète, mais il faut faire les démarches auprès d'Action Logement. On est très nombreux à pouvoir en profiter, donc 30 000 euros à 1% d'intérêt. Vous avez également donc les petites lignes de prêts aidés pour peu que vous soyez primo-accédant. Certaines banques ne regardent même pas votre âge quand vous êtes primo-accédant, je fais des petits clins d'œil.
Et puis on peut négocier. On peut négocier, c'est-à-dire que si vous avez un bon dossier, on le voit sur les barèmes des courtiers, c'est-à-dire que vous avez un taux moyen sur 20 ans à, on va dire, 3,45, eh bien les meilleurs dossiers sont à 3,10. Et si vous êtes un super, super bon dossier, peut-être que vous pouvez approcher les 3%. Donc pour ça, il faut se préparer, mettre de l'apport, ce qu'on disait, de l'épargne résiduelle, une capacité à épargner pendant les remboursements. Allez voir un courtier, parce que le courtier, son boulot, c'est de vous obtenir un crédit, et il n'est payé que si le crédit est accordé, donc c'est aussi son intérêt que vous ayez un bon crédit.
Ouais.
Voilà, donc...
Non, mais c'est clair.
C'est encore bien.
Juste, vous parliez de Sandrine Alonier, je pense à Sandrine et à Exahome, avec lesquels elle travaille, donc les principaux constructeurs de maisons en France quand même. Là, on a quand même des petits chiffres qui commencent à circuler sur l'impact du prêt à taux zéro. Ils ont des clients quand même qui arrivent à emprunter sur un taux lycée moyen à moins de 2%, à 1,90. Parce que ces clients-là, ils cumulent le prêt à taux zéro et puis les différents prêts aidés de la banque. Donc vous allez avoir évidemment le prêt action logement dont je vous ai parlé, mais vous avez aussi des doublements de PTZ, donc des petites lignes à 0% d'intérêt. Vous avez aussi des petites lignes parce que vous achetez un logement ultra performant parce qu'il sera neuf. Ça vaut pour la maison individuelle, mais comme
collectif. Qualité de la garantie. Comme c'est un logement neuf qui est performant, si vous le revendez pour cause de force majeure, il se revendra mieux que s'il est mal classé. Pour la banque, ça la sécurise. Plus vous sécurisez la banque, plus votre taux sera bas.
Mais oui, non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que c'est important de le dire, parce que, enfin, voilà. Encore une fois, je vous dis, c'est des clients qui certes ont un taux de marché sur une partie du crédit à 3,5%, mais qui à la fin, quand on fait la moyenne tout compris, sont à 1,9.
Ouais.
Donc encore une fois, j'essaye pas de vous dire allez précipitez-vous chez le banquier, mais enfin, il y a un vrai sujet et il y a encore une fenêtre de tir. Et rien ne nous dit que demain, quand effectivement ces banques auront fini leurs objectifs de production de crédit, elles supprimeront pas aussi ces petites lignes à prébonifier. Qui quand même permettait d'abaisser grandement le coût du crédit et renchérissait aussi notre capacité d'emprunt. Allez, on change de sujet quand même, parce qu'on ne va pas passer 10 minutes sur le crédit. Et comme en plus, je regarde Catherine. En fait, au départ, je voulais parler logement neuf et repartir, mais en fait, j'ai quand même envie de parler de ce marché de la location, parce que c'est quand même un vrai sujet. Et c'était quand même l'ombre noire qui planait quand même sur ce secteur du logement. Là, on a quand même des chiffres encourageant pour la région Île-de-France, qui est quand même l'une des régions les plus tendues. Je dis encourageant, mais avec des petites subtilités. Quand même.
Encourageant, mais parce que longtemps, on a regardé l'Île-de-France uniquement à travers le prisme Paris. C'est-à-dire, on parle de Paris, point barre. Ouais. Sauf que l'Île-de-France, le Grand Paris, c'est pas que Paris. Et il y a une étude de l'Institut Paris Région qui est parue la semaine dernière, qui bat en brèche justement l'idée reçue sur le fait que le marché locatif privé s'effondre en Île-de-France. Non, il s'effondre pas en Île-de-France, il s'effondre à Paris. Mais il augmente en proche et grande couronne. Et ça, sont des chiffres assez intéressants. Ça traduit une mutation à la fois géographique et sociale. parce que les familles qui ne peuvent plus acheter ou se loger plutôt, parce qu'on est sur le locatif dans Paris,
s'éloignent
et vont vers les programmes notamment neufs en banlieue et en grande banlieue. Alors évidemment, l'Institut Paris Région nous donne des chiffres sur l'effondrement de l'offre locative dans Paris intramuros. C'est 16 000 logements perdus entre 2006 et 2022. Donc voilà. Perdu pourquoi ? Pas perdu parce que les propriétaires ne trouvaient plus de rentabilité, donc ils ont décidé d'en faire autre chose. Donc ils ont fait le meublé, ils ont fait la location saisonnière, ils l'ont gardé comme résidence principale, pourquoi pas,
ou pas.
Comme résidence secondaire, ou ouais. Ils l'ont laissé vacant. Et ils sont allés investir pour du locatif ailleurs, notamment en banlieue. En petite couronne, le marché, il a gagné 24% de logements locatifs et en grande couronne, 42% au profit de villes comme Saint-Denis, comme Nanterre, Massy, Cergy. Je fais à peu près tous les départements de l'Île-de-France. Voilà. Et puis, ce que traduit aussi l'étude de Paris Région, c'est la mutation du type de logement mis en location. C'est-à-dire que maintenant, ce sont majoritairement, enfin, qu'il y a une forte majorité de meublés. Le nombre de logements meublés a été multiplié par 2,5.
Bah oui, mais forcément, tant que fiscalement, on avantagera le meublé au détriment du vide.
C'est un logement locatif sur quatre en Île-de-France qui est loué meublé. Et c'est un marché essentiellement aussi de petites surfaces.
Mais c'est tout simple. On prépare l'émission avec Catherine. On en a parlé. Et bon, j'ai fait des petits calculs. Alors, ce sont des cotes mal taillées. Hein, mais si vous comparez.
J'adore les cotes mal taillées de Pierre.
Mais les moyennes, c'est bien. Ça permet de comparer.
J'adore les.
Le rendement locatif net à Paris, ce que gagne un investisseur net avant fiscalité, c'est-à-dire que c'est le loyer, moins les charges, tout ça, en moyenne, cote mal taillée, on est entre 1,5 et 3%. D'accord ? En première couronne, on est entre 3 et 5. En grande couronne, on est entre 4 et 6. En même temps, si vous regardez les loyers, c'est les données de l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, à Paris intramuros, loyer médian, c'est 26-27 euros du mètre carré, petite couronne, c'est entre 17 et 19, en grande couronne, c'est entre 14 et 16. Ça veut dire qu'en grande couronne, c'est plus rentable et les locataires trouvent des loyers moins chers.
Ouais, plus...
Comment est-ce que ça pourrait être autrement à Paris ?
Alors, pardon, mais moi, j'ai quand même une petite intervention à faire. En fait, moi, c'est un vrai sujet que je me pose à chaque fois. On donne les rendements et tout, mais c'est à l'instant T. C'est au moment où j'achète aujourd'hui et où les prix sont à 10 000 du mètre carré à Paris.
Combien vous basez sur des hypothèses quand vous investissez ?
Mais non, mais je suis d'accord, mais enfin, les gens qui sont propriétaires bailleurs aujourd'hui à Paris, alors, moi, j'imagine en petite et grande couronne, mais enfin, c'est des gens qui ont acheté à combien ? Parce que, en fait, calculer le rendement aujourd'hui à des prix d'aujourd'hui.
Il était deux fois supérieur il y a 20 ans. Mais à Paris, c'est toujours pareil. Quand vous avez un faible rendement, on fait ce qu'on appelle de la stratégie patrimoniale. Vous acceptez un rendement très faible. L'idée,
exactement,
c'est que ça ne vous coûte pas. Et quand vous allez revendre dans 20 ans, vous allez faire une plus-value qui va compenser le rendement. C'est ça le calcul.
Oui, mais encore une fois, si j'ai acheté il y a 20 ans, aujourd'hui, mon rendement, quand bien même vous trouvez que les loyers sont peut-être pas assez élevés, ce qui me fait halluciner étant locataire à Paris pour celles et ceux qui ne sauraient pas, il y a quand même un rendement qui n'est pas de 1%.
Si vous voulez que l'offre augmente, il faut bien investir à un moment donné. Celui qui a déjà investi, mais on voit, à Paris, ça ne me rapporte plus rien. J'ai du cash. Je vais faire un crédit avec l'effet de levier. Si je veux une stratégie de rendement et une stratégie de revenu complémentaire pour la retraite, ce qu'on appelle une stratégie du cash flow, hein, positif, eh ben, je vais aller en petite ou en grande couronne.
Ouais.
Si je veux une stratégie purement patrimoniale, si je mets des lingots d'or dans l'armoire à linge, je peux rester à Paris.
Non, attendez, je vous écoutais, Pierre, mais là, j'ai Alban qui me dit un truc, notre réalisateur, toujours partie prenante de nos échanges, je salue Alban, en régie, qui me dit, ouais, et en plus, à Paris, les loyers sont capés à cause du DPE. Non, mais attends, évidemment, ils sont indécents. Si on a une passoire thermique, on est d'accord. Aujourd'hui, on ne peut plus les augmenter, les loyers. Léger, on ne peut plus les louer. Enfin, on pourra peut-être les relouer en fonction du projet de loi logement qui est en préparation en ce moment. Mais on peut quand même facturer un loyer sur des passoires qui sont encore louables à ce stade. C'est juste qu'on peut pas augmenter annuellement comme on peut le faire aujourd'hui grâce à l'indice de référence des loyers qui suit le niveau de l'inflation.
Dire aussi que ce qui plaide, enfin, en faveur de l'investissement hors Paris, c'est les réseaux de transport qui sont maintenant en place. C'est-à-dire que ça a permis à des familles de s'installer plus loin en ayant une gare du Grand Paris Express ou je ne sais pas quoi, un RER.
Ouais, et en n'allongeant pas nécessairement la durée de travail à domicile. Mais bien sûr. Alors, juste vous parliez d'un mot pour qu'on boucle la boucle sur ce sujet francilien. Il y avait un autre sujet qui avait retenu votre attention, Catherine, c'était le sujet du logement étudiant. Puisque vous parliez de petits logements meublés, pour moi, typiquement, ça s'adresse aussi aux étudiants. Et là, il y a quelque chose qui est en train de naître du côté de notre région
de la Banque des Territoires et des CROUS. Pour donner un petit peu un état des lieux, il y a 810 000 étudiants en Île-de-France, c'est un quart des étudiants français.
C'est énorme. Moi, quand j'ai lu votre chiffre, je me suis dit, ouais, quand même.
Et 140 000 de plus l'année prochaine. Donc, ils indiquent que sur 25 ans, les chiffres Banque des Territoires et CROUS, les effectifs ont bondi de 40%. Et tout ça pour 113 000 logements étudiants, public et privé confondus, c'est-à-dire résidences CROUS et résidences privées. Et voilà. On ne compte pas le logement dans le diffus, c'est-à-dire propriété classique, puisque ça, on a du mal pour l'instant à le connaître. Et il y a les observatoires territoriaux du logement étudiant qui se réunissent la semaine prochaine. Peut-être qu'on aura des informations plus précises. Donc, en Île-de-France, c'est un logement pour 34 étudiants. À Paris, c'est un pour 48. Et au niveau national, c'est 1 pour 17. Donc, on voit déjà les écarts de ratio. Alors, le privé s'est engouffré dans l'histoire en lançant des projets de résidence étudiants à des niveaux de loyer qui ne sont pas forcément soutenables pour tout le monde. C'est un peu une litote. Et puis, en même temps, la Banque des Territoires et les CROUS ont aussi décidé de lancer un plan d'action en direction du logement étudiant. Donc, la Banque des Territoires, elle engagera au niveau national son programme Agile. C'est 5 milliards d'euros d'investissement. En Île-de-France, pour combien ? Pour 60, que je dise pas de bêtises, 60 000 logements de plus. Et en Île-de-France, c'est 4 000 logements d'ici 2030.
Mais ce serait 4 000 logements étudiants sociaux, en fait.
C'est sociaux, c'est ça, c'est les CROUS.
Et donc, du coup, ça permettrait d'avoir du logement étudiant.
Oui, parce que c'est pas qu'une question de logement, c'est-à-dire c'est une rupture dans l'égalité des chances des gens de pouvoir accéder à des études supérieures.
Je me souviens de Robin Rivaton qui disait qu'il avait observé justement que les jeunes, les étudiants franciliens restaient plus longtemps vivre chez leurs parents que partout ailleurs en France. Et il posait la question avec un petit sourire en disant, est-ce que vous croyez que c'est parce que les parents d'Île-de-France sont plus sympas avec leurs mômes? Non, c'est peut-être parce qu'il y a un sujet logement quand même.
Il n'y a pas le choix.
Ben voilà. Non, mais c'est un vrai sujet. Alors, vous parlez de faire sortir de terre des nouveaux logements. Encore faut-il que la construction fonctionne, Pierre. Oui. Je vous regarde. Donc, on a eu les chiffres.
La cata.
C'est pour ça que je disais la difficile, voire impossible à ce stade, convalescence des acteurs du logement. C'est une convalescence.
La Fédération des promoteurs immobiliers, son président, toute son équipe ont fait une conférence de presse cette semaine. Et depuis en gros 2023, le secteur plonge et on a l'impression que c'est une descente sans fin. C'est-à-dire que vous avez les réservations, tout secteur confondu, c'est à moins 14% au premier trimestre 2026 par rapport à un premier trimestre 2025 qui était déjà très mauvais. Chez les particuliers, on est à 12 300 parce que tout tombe, les ventes en bloc, les ventes aux particuliers. Les résidences principales qui tenaient parce qu'il y avait de l'accession aidée, du bail réel solidaire, de la TVA 5,5, eh ben ça baisse de 18%. Le seul petit bout de lumière perdu au fond du tunnel, c'est l'investissement locatif. Alors, ils partent de très loin, mais il y a
Welcome,
un peu plus de 3000.
Welcome, le dispositif Jeanbrun,
On est à plus 22% sur les investisseurs, donc on est à 3000 ventes au premier trimestre 2025, sauf qu'on était à 5800 au premier trimestre 2023 et à 13100 au premier trimestre 2022.
Parce que j'allais vous dire, c'est plus 22%, alors, mais il faut voir de quoi on parle.
Ils partent de loin, alors peut-être qu'il y a le début d'un effet Jeanbrun, c'est encore un peu tôt pour le dire.
Bah, quand même. En Île-de-France, j'ai lu ça, j'adore. En Île-de-France, les réservations à investisseurs progressent de 27%. Par rapport au T1 2025, dont 29 logements réservés grâce au dispositif Jeanbrun en Île-de-France.
On parle, je ne sais plus si c'est le chiffre exact, mais il y aura à peu près 500 réservations qui ont été faites au titre du Jeanbrun, qui est un dispositif nouveau, qui est plus compliqué que l'ancien dispositif Pinel, qui est destiné à des gens qui ont
plutôt... Moi, j'ai à chaque fois peur de perdre nos auditeurs et téléspectateurs quand on explique entre l'enjeu d'audience et de pédagogie.
En gros, le principe, on amortit, c'est-à-dire qu'on retire une partie du prix du bien des loyers pour que les loyers soient moins imposables.
C'est un système d'amortissement.
Voilà. Donc, il faut laisser sa chance au produit, comme on dit. Hein, pour le moment, c'est peut-être un petit peu tôt. Non, ce qui est compliqué aussi, c'est que comme il n'y a pas de demande, les promoteurs freinent sur les mises en vente qui baissent de 24%. Et pire, c'est que quand les programmes ont des difficultés commerciales, les promoteurs ne peuvent pas les vendre à perte. Donc ils les abandonnent. C'est 24%. C'est-à-dire qu'il y a un logement sur quatre aujourd'hui qui est retiré du marché en raison des difficultés commerciales. Et la preuve qu'ils ne peuvent pas agir sur le prix, c'est que depuis 3 ans, nous sommes autour de 100 000 euros du mètre carré. Vous avez des coûts de construction, des terrains chers, des taxes qui ne bougent pas, beaucoup d'impositions, une réglementation qui, certes, est bas carbone, performante, puis qui coûte très cher. Donc plutôt que de vendre à perte, et de provoquer la faillite de l'entreprise, eh bien, les promoteurs retirent des logements neufs du marché. C'est vraiment, en fait, je pense qu'on est dans vraiment un gros changement. C'est-à-dire qu'avant, on avait un marché à 70, aux alentours de 100, 110 000 ventes aux particuliers. Peut-être que la nouvelle taille du marché, compte tenu de tout ça, compte tenu de ses prix, ce sera entre 70 et 80 000. C'est ce que disaient les constructeurs de maisons individuelles avant la crise. Bon, ils en sortent un petit peu mieux. J'ai pas de chiffres récents, mais bon, eux, ils sortent un peu le
je crois qu'ils sont autour de 70 000, peut-être un peu moins.
Ils étaient à 50 000 en 2024. Ils sont montés à 68 000 en 2025. Et aujourd'hui, on est sur un train de 70 000 à peu près. Ça va un petit peu mieux. Mais pour eux, au milieu des années 2000, ils vendaient 180 000 maisons par an. Donc la taille, et eux, ils disaient la taille de le marché, indépendamment de la crise, aux alentours de 80 000. Peut-être que chez les mêmes promoteurs, c'est pareil. Donc le secteur va se restructurer. Il y aura sans doute encore des faillites, des disparitions d'entreprises. Les plus costauds, ceux qui restent, c'est ceux qui ont la culture des fonds propres, qui sont solides financièrement. Les banques continuent de les suivre.
Ouais, donc, bien sûr, mais encore faut-il que la demande soit là. Je me retourne du coup parce que j'ai envie de dire, j'ai l'impression que nos émissions se ressemblent, mais est-ce que les pays d'Europe se ressemblent? On traverse cette crise depuis quelque temps. Moi, je me pose la question de savoir parce qu'effectivement, on voit que nos voisins européens et notamment l'Italie sont confrontés à des difficultés majeures aussi. Alors, il y a des plans qui diffèrent. Alors, on a nos projets de loi de logement, ils ont autre chose.
On n'a pas dit sur le logement neuf aussi le retrait des bailleurs sociaux.
C'est vrai que les ventes en bloc ont énormément reculé. Voilà. Je crois qu'on est passé à 4000 logements alors qu'on était à je ne sais pas combien.
Contribuer largement à permettre aux promoteurs de sortir leur programme.
Bah, ils les ont sauvés.
Voilà. Oui, alors l'Italie, non, c'est pas mieux. Désolée de vous dire. La présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, a annoncé fin avril la mise en place d'un vaste plan logement. Elle veut s'attaquer à remettre sur le marché 100 000 logements sociaux ou abordables d'ici 10 ans. Comment elle va faire? Ce sont des annonces pour l'instant. Voilà. J'avais quand même noté que La Repubblica, qui est un journal italien, disait que les prix de l'immobilier ont progressé de plus de 50% en 10 ans en Italie. Et on parle de Paris, on peut parler de Milan, des grandes capitales italiennes, où là, ils ont encore augmenté davantage. Donc, que veut faire Giorgia Meloni? Eh bien, elle veut remettre déjà sur le marché 60 000 logements sociaux qui sont obsolètes, en mauvais état et tout ça, pour les proposer soit en logement social, soit en accession. Et elle va mettre pour cela 1,7 milliard d'euros. Enfin, elle annonce qu'elle mettra 1,7 milliard d'euros, plus 4,8 milliards d'euros, qui étaient jusqu'alors fléchés sur la rénovation urbaine. Elle veut aussi un peu tordre le bras aux promoteurs, enfin faire un deal, je ne sais pas comment on dit en italien. Si je simplifie la construction, je vous aide à sortir des programmes, à réhabiliter plus facilement, vous réservez au moins 70% de vos opérations à des loyers, à des logements sociaux, avec des loyers inférieurs de 33% au prix du marché. Donc ça, il faudra que les promoteurs acceptent de jouer le jeu. Ouais, et ensuite, il lance un fonds qui s'appelle Piano Casa, c'est le plan logement, à une société immobilière qui est contrôlée par le ministère italien de l'économie. C'est un fonds d'investissement qui va investir justement pour créer du logement abordable. Et il y aurait 3,6 milliards d'euros d'injectés dans ce fonds pour le logement abordable en Italie. Et puis, elle a trouvé un autre moyen aussi. Elle écrit qu'il y a 60 000 squatteurs.
Il y en a partout.
Elle va s'en occuper aussi avec des méthodes autrement plus virulentes que les lois françaises.
Jusque-là.
Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de remettre sur le marché, en tout cas de restituer ces logements squattés.
Bon, on voit que finalement...
La méthode Meloni est...
Bref.
Dans la bienveillance.
Non, et dans la nuance, toujours. Mais il y a quand même un vrai sujet de pénurie d'offres de logements abordables. D'ailleurs, ça a été pris en compte à l'échelle européenne ces derniers mois. Donc, il y a quand même un vrai sujet qui
se
pose.
Dans tous les pays.
Maintenant, on a un commissaire au logement, ce qui n'est pas...
Bon, il nous reste que 4 minutes. Et quand même, il faut célébrer qu'il va falloir commencer à aller sur Internet... pour déclarer nos impôts, parce que quand même, on va essayer de conseiller.
Ah oui, oulala, c'est alors l'immobilier est très fiscalisé en France. Les loyers sont imposés au barème, plus les prélèvements sociaux. Si vous êtes imposé à l'IFI, si vous comptez toutes les taxes,
l'impôt sur la fortune immobilière.
Ceux qui sont les plus imposés, ben c'est les trois quarts des loyers qui partent. Donc c'est un peu beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de bailleurs se disent ben non, j'ai payé trop d'impôts, donc j'y vais pas, quoi. Mais la bonne nouvelle,
c'est Pierre.
C'est qu'on peut baisser les impôts. Alors, il y a plein de dispositifs. On a parlé du dispositif Jeanbrun, l'amortissement dans le neuf. Dans le vide, si vous êtes au régime forfaitaire, vous avez un abattement de 30% sur les loyers. Si vous êtes au régime réel, vous déduisez les travaux, la taxe
amortissement,
foncière, tout ça. Voilà. Ouais. Après, vous pouvez passer avec le De Normandie, qui est une variante de l'ancien Pinel, mais qui concerne que l'immobilier ancien rénové dans certaines villes. Vous avez le Locavantage aussi, vous avez un crédit d'impôt sur le loyer, puis le et sociale, plus vous avez un crédit d'impôt. Vous avez les monuments historiques, vous avez la déduction sur les loyers. Après, vous pouvez passer en meublé. Vous avez un régime forfaitaire avec un abattement suivant les configurations entre 30 et 50% des loyers. Ou au réel, vous amortissez tout ça. Alors, c'est une boîte à outils, il faut regarder. Effectivement, ça peut beaucoup alléger l'addition. Enfin, c'est quand même effroyablement compliqué.
Bah, faut un bon mécano et un bon.
Il
n'y a pas que les impôts, il y a aussi après, il faut se payer quand même les conseillers qui vont vous aider à faire la déclaration.
Tous les journaux, tous les gestionnaires de patrimoine en ce moment travaillent avec leurs clients bailleurs parce que, alors c'est sûr, vous avez un petit studio qui est en parfait état avec très peu de charges. Vous êtes avec un abonnement forfaitaire de 30% sur vos loyers jusqu'à 15 000 euros de loyer. Là, c'est simple, c'est une case à remplir. Ouais. Mais après, quand vous rentrez dans la machine, c'est effroyablement compliqué. C'est peut-être, c'est pas la raison ultime, mais c'est une des raisons pour lesquelles il y a moins d'appétence pour l'immobilier et qu'on a beaucoup parlé ces dernières années de réforme, d'avoir un régime unique. Le rapport Lemoyne, il y a 2 ans, parlait de créer un amortissement pour tout le monde avec des déductions. Et après, vous modulez cet amortissement en fonction de l'allocation sociale, de l'allocation monument historique, du neuf, de l'ancien rénové, etc. etc. Là, c'est incroyablement compliqué. Je ne sais pas si on parlait d'Europe, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, mais en tout cas chez nous, c'est...
Chez nous, c'est très compliqué.
Ouais.
Mais c'est voulu pour être compliqué.
C'est un peu comme les noms
recours.
C'est tellement complexe qu'en fait, on ne cherche pas. Et c'est, d'ailleurs, ça fait les affaires. Et d'ailleurs, on fera des sujets sur la SCPI, et notamment avec la SCPI qui propose le plus fort rendement historique pour des SCPI la semaine prochaine. Ah. Et justement, on verra comment finalement beaucoup de gens qui investissaient dans ce locatif en direct s'en détournent pour aller sur des véhicules qui sont finalement beaucoup plus simples d'accès avec des tickets d'entrée plus faible et puis moins de gestion.
Il faut quand même rappeler que le principe en immobilier, comme dans tout le placement financier, c'est que le rendement rémunère le risque. Donc aujourd'hui, par exemple, l'immobilier va vous rapporter en net, encore une cote mal taillée dans les 4%, mais on parle par exemple de villes où vous pouvez avoir 8, 9, 10%. Mais ça veut dire que derrière, vous avez de la vacance locative, que vous avez des incidences, c'est que comme la rentabilité rémunère le risque, eh bien, on peut très bien y aller, mais il faut être conscient du risque que l'on prend avec une rentabilité élevée.
Bah, c'est toujours le même sujet, c'est toujours corrélé. Bon, on devait parler de la formation des agents immobiliers contre le blanchiment aussi. Rapidos, peut-être d'un mot, il nous reste 20 secondes.
Oui, c'est en ligne avec la loi sur le narcotrafic de juin 2025. Maintenant, les agents immobiliers, mais pas seulement, les mandataires, tous ceux qui tournent autour du sujet vente immobilière, devront se former et devront prouver qu'ils sont formés.
Oui, parce que c'est ça la nouveauté, c'est-à-dire qu'en fait, ils devaient déjà être formés, mais maintenant, ils devront prouver qu'ils sont formés.
En théorie, rien ne se passe, c'est ça. Et donc, ils devront prouver, attestation à l'appui, tout ça, qu'ils sont bien formés à la lutte contre le blanchiment et à tout ce qui concerne les mouvements de fonds terroristes, potentiellement terroristes. Pourquoi l'immobilier ? Parce que l'immobilier, c'est quand même un moyen...
De blanchir.
De choix pour blanchir, pour faire du nettoyage de l'argent sale. Donc là, on passe de la déclaration d'intention, oui, on va se former, machin, à oui, on va le faire et on va prouver qu'on le fait. Et donc, il y a des formations qui sont mises en place. Elles sont adaptées en fonction de ce qu'on fait dans l'agence immobilière. Si celui qui juste saisit une annonce...
Non, c'est ceux qui sont en contact direct avec les clients, c'est
ça? Oui, il y a différents niveaux de contact avec le client.
C'est pas que je veux vous interrompre, mais il y a Alban qui m'a dit qu'il faut qu'on arrête.
Ah ben, si Alban le dit, on n'a pas le choix.
Mais Alban, c'est le chef de cette émission, vous ne le saviez pas? Ben maintenant, vous le savez. Merci en tout cas à tous les deux. Bon, on reparlera hein, de la saison d'hiver. Après oui. tout, si le beau temps ne revient pas, voilà, il va on a le temps, on a le temps. Merci à Pierre Chevillard et à Catherine Boquet, nos journalistes indépendants sur ce secteur de l'immobilier qu'on préfère en France. Merci à tous les deux. Les experts de l'Immo reviennent lundi pour un nouvel épisode.
Les experts de l'Immo sur BFM Business.